Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, sécurité intérieure, l'Europe sait-elle protéger ses citoyens ? Ce devait être une clause exceptionnelle après les attentats du 13 novembre 2015. C'est une clause exceptionnelle, mais durable. Le rétablissement des contrôles aux frontières devait théoriquement prendre fin demain. 3 ans et demi après avoir été activé, bref rappel des événements, c'est d'abord la COP21 qui avait placé la France en état d'urgence. La police aux frontières s'apprêtait à se déployer progressivement. Et puis les attentats, le Bataclan, les terrasses parisiennes. La nuit même, les forces de l'ordre françaises se positionnaient sur toutes les frontières du pays, gares et aéroports compris, rappelaient leur personnel, bloquaient les congés et mobilisaient tous les véhicules et outils adaptés. Depuis, tous les 6 mois, et malgré les critiques, ces contrôles ont été maintenus sans que la Commission européenne n'ait rien à dire, car cette entorse à la libre circulation est prévue par une clause dans les accords de Schengen. Avant que ne se répètent et se prolongent de tels épisodes de repli que plusieurs partis d'extrême droite voudraient d'ailleurs définitifs, que peut-on améliorer en amont à l'échelle européenne ? Faut-il réduire le périmètre de Schengen, comme l'a suggéré jeudi Emmanuel Macron ? Comment perfectionner la coopération en matière de renseignement et de justice ? Sur ses frontières intérieures au moins, l'Europe sait-elle protéger ses citoyens ? Nous en débattrons jusqu'à 19h avec 3 invités. Bonsoir Yves Bertoncini. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le président du mouvement européen en France depuis 2016. Vous êtes consultant en affaires européennes et l'ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci à vous ainsi qu'à vous qui êtes en duplex de France Bleu Isère. Bonsoir Pierre Berthelet.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit, spécialisé en droit de l'Union européenne, chercheur associé notamment au Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes de l'Université de Grenoble. Vous êtes membre de la communauté des experts Europol, qui est l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles. Et je remercie France Bleu Isère de vous accueillir et son technicien Simon Berthier. Nous sommes également par téléphone avec Abdelassiem Eldifraoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et spécialiste, entre autres, du djihadisme et vous travaillez sur les questions de sécurité européenne. Donc à vous trois, cette première question, c'est donc demain que devraient prendre fin les mesures de contrôle aux frontières qui avaient été rétablies après les attentats de 2015, systématiquement renouvelées depuis tous les 6 mois, au motif de la menace terroriste. Pour le dire vite, Yves Bertoncini, parce qu'en réalité, à chaque fois, tous les 6 mois, de nouvelles arguties juridiques sont remises sur la table par la France.
Oui, en effet. Dans votre lancement, vous l'avez bien indiqué, le 13 novembre, évidemment, ces attentats horribles ont joué un rôle majeur, mais il se trouve que le 13 novembre, la France avait déjà invoqué une clause de sauvegarde. C'est possible, hein, Schengen le permet, parce qu'elle allait organiser la COP21. Donc c'est assez routinier, je dirais, que des États, la Pologne l'a encore fait récemment, invoquent cette clause de sauvegarde parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans leur pays et ils veulent temporairement reprendre un contrôle plus systématique à leurs frontières nationales. La France l'a donc fait de manière renforcée après les attentats du 13 novembre 2015. Et puis depuis, en effet, en passant d'une base juridique à l'autre, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, hein, les articles 25 à 29 du Code Schengen, et là, invoquer la nécessité de poursuivre ces contrôles, alors théoriquement systématiques, mais qui, Dieu merci, ne le sont pas, parce que s'ils l'étaient, ça embêterait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de frontaliers, de transporteurs routiers, etc. Mais elle se garde cette possibilité. Et elle le fait pour des raisons qui sont en partie liées aux défis terroristes, en partie, mais aussi, et ça s'est mélangé, ce sont deux sujets différents, avec les mouvements secondaires en matière migratoire. Parce que même si la crise des réfugiés est désormais derrière nous, le nombre l'afflux de réfugiés vers l'Europe, de demandeurs d'asile, est revenu à des chiffres aussi bas qu'avant 2015-2016, la crise des réfugiés, eh bien, il y a toujours ce qu'on appelle des mouvements secondaires. Ceux qui étaient déjà là peuvent venir, par exemple, d'Allemagne. Donc, pour cette raison, la France joue un peu avec les mots, joue un peu avec les clauses, comme d'autres pays, mais qui le font plus ouvertement. Et elle invoque les clauses de sauvegarde. La Suède, le Danemark le font, l'Allemagne, l'Autriche aussi. Elle mélange les deux motifs et donc elle prolonge cet état d'exception vis-à-vis de l'espace Schengen.
Alors le prolongera-t-elle demain ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Vous êtes en contact avec les décideurs ? On n'en sait rien en fait. Personne ne nous a informé de ce que ces contrôles seraient ou pas maintenus.
Non, il y a toute chance de penser qu'ils seraient levés en catimini. Parce que tout ça, c'est quand même de la communication politique. Je tiens à le souligner. On n'a jamais arrêté un seul terroriste à aucune frontière. Et d'ailleurs, le 13 novembre, dans la nuit, Belaïd Abdeslam, pardon, est passé, Salah Abdeslam est passé à la frontière. Il a d'ailleurs été contrôlé. Sauf que les échanges d'informations n'avaient pas été faits entre la police belge et la police française. Et donc, on l'a laissé filer. Donc, est-ce que la France assumera cette communication politique consistant à dire, écoutez, on arrête, hein, parce que face au terrorisme, d'ailleurs, c'est un ennemi intérieur. C'est aussi un ennemi qu'il faut frapper à la source, notamment en Irak et en Syrie. Ça a d'ailleurs été fait. On lève les contrôles aux frontières, ou est-ce que tout ça se passera en douce, si je puis dire? Bien, nous verrons bien dans les prochaines heures.
Pierre Berthelet, c'est le seul bilan qu'on peut pour l'instant dresser de 3 ans et demi de contrôle aux frontières. C'est aucun terroriste jamais arrêté à aucune frontière, ou on a des chiffres un petit peu plus précis sur des interpellations, sur des renseignements précieux qui auraient été collectés à la faveur de ces contrôles?
Non, alors je crois qu'il faut être bien clair, hein, concernant le rétablissement des contrôles aux frontières, je reçois tout à fait l'intervention précédente. Le résultat est extrêmement maigre et on est plus de l'ordre de la symbolique que de l'efficacité opérationnelle. Juste quand même un point pour ajouter quelque chose, c'est que il faut savoir c'est que cette clause, elle est inhérente en fait à Schengen. Rappelons-nous, Schengen, c'était au départ la libre circulation des personnes dans un espace sans frontières, avec en contrepartie davantage de sécurité. Mais les États membres ont toujours gardé un petit peu dans leur poche la possibilité à tout moment de rétablir cette fameuse clause, donc de rétablir de manière unilatérale les contrôles aux frontières intérieures. Or, et c'est là où je vais en venir, la France a entre guillemets toujours été un petit peu accro à cette clause. Il faut bien se rappeler que dès l'origine, donc dès la levée des contrôles aux frontières, la France, alors c'était à l'époque, c'était Charles Pasqua, avait immédiatement rétabli les contrôles aux frontières intérieures entre la France d'une part et puis la Belgique et le Luxembourg d'autre part, pour des raisons notamment de, je dirais, la France n'était pas du tout d'accord avec la politique de la drogue en matière de drogue pour les Pays-Bas, mais on voit bien que déjà, originellement, la France n'avait absolument aucun scrupule à appuyer sur ce bouton-là. Maintenant, il faut bien voir, c'est que je dirais que du point de vue de la coopération policière, les enjeux se trouvent complètement ailleurs. C'est pas du tout, contrairement en tout cas à certains hommes politiques qui voient le rétablissement des contrôles aux frontières comme étant l'alpha et l'oméga de la sécurité. Et là, je pense que je rejoins en tout cas mon intervenant précédent, et d'ailleurs je me permets de le citer, il disait de manière très pertinente, il faut des espions et non des plantons. La lutte antiterroriste, elle se fait d'abord par l'échange de renseignements.
C'est ce que vous avez écrit, Bertoncini. Oui, par l'échange de renseignements en amont, parce que pour l'instant, restons un instant sur ces contrôles aux frontières, mais la Commission européenne, qui donc n'a pas son mot à dire, on vous a bien compris, a beau jeu de rappeler par exemple qu'entre la France et la Belgique seulement, il y a quoi, 300 points de passage et encore seulement en voiture, parce que les points de passage à pied, là, c'est par milliers, donc sous-entendu, le contrôle ne sert à rien. Néanmoins, Abdelassiam El-Difraoui, est-ce qu'on peut se dire que ces contrôles, peut-être qu'ils auront contribué à déstabiliser des réseaux qui, pour ne pas se faire prendre, chercheraient à se reconfigurer et à son insu, peut-être produiraient des informations?
Donc, tout d'abord, je voudrais bien rajouter deux autres motifs pour ces contrôles aux frontières. Donc, il y a en effet peut-être un effet de dissuasion. Donc, les djihadistes aussi, certains criminels organisés vont être un peu plus prudents sur le transport d'une frontière à l'autre et tout ça. Mais ça, c'est difficilement mesurable. Mais deuxièmement, il y avait aussi cet effet d'annonce, rassurer une population. Donc, c'est un peu populiste, dire, voilà, on a rétabli des contrôles à nos frontières, qui restent en effet très très partiels et de temps en temps absurdes, mais c'est une mesure forte, au moins verbalement, qui rassure une partie de la population. Absurde dans un sens, moi je me souviens de plein de petits contrôles que je subis, on contrôle un Thalys qui va de Paris à Bruxelles.
Oui, parce que les gares et les aéroports sont des frontières. Sens. Pardon, allez-y. Oui.
Mais on ne contrôle pas dans l'autre sens, le sens où il y avait les meurtriers de Paris qui sont arrivés. Pareil, on contrôle à Paris un vol qui arrive de Berlin, donc où la personne est déjà contrôlée une fois. Donc Ces contrôles restent beaucoup de mesures pour assurer la population avec une petite dose de dissuasion pour la communauté organisée, les réfugiés et les djihadistes.
Rassurer la population, d'où les programmes de certains partis aujourd'hui pour les européennes qui disent que ces mesures de repli doivent être définitives. Il faut fermer les frontières, mais y a-t-il encore des garde-fous, et non pas des gardes-frontières en l'occurrence, des garde-fous européens? Quand Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, défend la fermeture des frontières, notamment dans son programme pour les européennes, il ne peut rien décider tout seul, Yves Bertoncini. Doit-il convaincre, en tout cas ?
Il y a une forme de consensus européen sur les frontières extérieures, parce que Schengen, c'est ça aussi. Nous avons des frontières extérieures, et celles-là, il faut les protéger, et même de plus en plus en commun. Il y a notamment un projet de corps européen de garde-frontières, auquel Matteo Salvini s'oppose à moitié, d'ailleurs. Donc il faudrait qu'il existe ce corps européen de garde-frontières extérieur, mais c'est pas là encore forcément pour les terroristes, hein. C'est aussi pour les savoir si les demandeurs d'asile ont titre à être examinés, ou alors ceux qui ne sont pas éligibles, eh bien s'ils doivent être envoyés chez eux, parce que les migrants doivent venir par des voies légales et non pas par des voies terrestres de cette manière-là. Mais si vous me parlez maintenant de la façon dont les États membres peuvent, oui, théoriquement, rétablir tous les contrôles à toutes leurs frontières, bien sûr, ils le pourraient. Alors pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils jouent sur cette communication politique assez perverse? Parce que, et ça, c'est l'essence de Schengen, ça mettrait des bâtons dans les roues, pour ne pas dire autre chose, à des dizaines et centaines de milliers d'Européens. Je rappelle, pour la France, 350 000 frontaliers chaque jour, à l'heure où on parle, ils rentrent. Ils rentrent. Est-ce qu'il faut les contrôler le matin quand ils partent et le soir quand ils reviennent? Vous imaginez les transporteurs routiers, les consommateurs aussi qui vont d'un côté et de l'autre des frontières. Tout ça, ça représente des millions de personnes. Alors, les responsables politiques le savent. L'accord de Schengen, il est né en réalité un an avant à Sarrebruck, entre la France et l'Allemagne. La légende dit que François Mitterrand et Helmut Kohl ont constaté qu'au pont de Kehl, donc entre Strasbourg et Kehl, il y avait tellement de camions qu'on pouvait plus y aller. Il y avait une sorte d'interdépendance économique et humaine qui s'était établie. C'est pour ça que Schengen est arrivé après, d'ailleurs. C'est quand les liens économiques et humains se sont développés. Aujourd'hui, ils existent. Et donc, les responsables politiques feignent de miser sur cette idée que, oui, la bonne vieille mythologie des frontières nationales, c'est risible, hein, dans un pays comme la France, dont on a bien vu ce qu'il avait fait de la ligne Maginot, hein, parce que voilà. Mais il y a toujours cette mythologie que Danny Boone avait tournée en dérision dans son film Rien à déclarer. Mmh. Et c'est vrai que les responsables politiques préfèrent en jouer plutôt que de dire, parce que c'est ça l'essentiel. Non seulement n'embêtons pas les honnêtes gens qui passent les frontières par centaines de milliers et millions tous les jours, mais surtout, oui, bien sûr qu'il faut renforcer la sécurité, mais ça aussi, c'est l'esprit de Schengen. Ça veut dire contrôlons les terroristes où ils se trouvent, c'est-à-dire pas sur les frontières. Effectivement, pas de plantons, des espions, coopérons. Et Schengen, c'est aussi un code qui organise la coopération policière, judiciaire en matière de renseignement. C'est là-dessus qu'il faut miser. Des progrès ont été faits, mais c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent encore plus et pas sur un mythologique retour au contrôle systématique aux frontières.
C'est vrai, Pierre Berthollet, que ceux qui veulent démontrer le côté vain de ces contrôles aux frontières rappellent que le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen et donc n'a jamais cessé de contrôler ses frontières, a été visé par des attentats meurtriers en 2017. Donc les terroristes ne sont pas aux frontières, pour vous non plus.
Non, et d'ailleurs, je crois que finalement, ce mythe de l'imperméabilité des frontières, bon, bah, je pense qu'il fait florès déjà aux États-Unis et on voit bien le résultat. D'autre part, on voit bien, ne serait-ce que la comparaison avec les frontières de la Corée du Nord, où lorsque des personnes veulent passer, elles passent toujours. Donc je pense que déjà, en tant que tel, c'est pas du tout la bonne solution. Et d'autre part, et j'ai même j'irai beaucoup plus loin dans ce qui a été dit juste avant, il faut bien aussi se rappeler, si vous voulez, ce discours concernant le rétablissement des contrôles aux frontières, il est basé sur une sorte d'âge d'or, de mythe, comme quoi c'était mieux avant. Mais rappelons-nous comment c'était dans les années 70 ou 80. Déjà, on était face à une criminalité et un terrorisme international, et il faut bien se rappeler que l'objectif de la coopération policière et des mesures de sécurité ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal parce qu'on était sur un mode international, intergouvernemental, et il fallait aller beaucoup plus loin. Donc paradoxalement, on nous propose des mesures, ou en tout cas on nous resserre des mesures qui ont prouvé toute leur inefficacité.
Alors Abdelhassem Al-Difraoui, pour autant on peut quand même se dire que pour parler de ceux qui ont des projets d'attentats, qui partent en Syrie, qui en reviennent, qui franchissent des frontières, qu'elles soient intérieures dans l'espace Schengen ou extérieures, c'est quand même intéressant d'en savoir plus, de collecter des données là-dessus. là-dessus, de les compiler et éventuellement de s'en servir pour des interpellations ou des arrestations ?
Je veux d'abord un peu revenir sur la frontière. Il y a une deuxième raison économique qui est très simple. Pour dire que ça coûtera très très cher de rétablir les frontières.
C'est ce que dit la Commission européenne depuis le début d'ailleurs.
À savoir, on fait un simple calcul, on regarde la totalité des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est quelques milliers de kilomètres, je n'ai pas fait le calcul exact, mais si chaque pays rétablira ses frontières à l'intérieur, on parlait de dizaines et dizaines de milliers de kilomètres de frontières à contrôler. Qui peut aujourd'hui faire ça? Donc c'est pour cela que le renseignement est très important. Et là, c'est pas uniquement le renseignement, l'échange de renseignements entre les pays à un niveau national, sur une échelle supérieure de services de renseignement. On a vu les grandes failles de renseignement européens avec ces djihadistes étaient vraiment le renseignement territorial, le milieu dans lequel les djihadistes sont évolués. Soit à Molenbeek en Belgique, soit à Toulouse, soit à certaines petites villes en Allemagne. Donc là, il faut vraiment, il y avait un djihadisme qui s'est internationalisé, mais Molenbeek, donc d'où provenait une grande partie des assassins, des attaques à Paris, c'était des gens, eux, internationalisés, ils allaient à travers l'Allemagne, en Syrie, et ensuite des retours à travers l'Autriche, et la plupart de ces gens étaient pas repérés. Et parce qu'on connaissait même pas ce milieu en Belgique, donc il faudrait aussi, si on parle de coopération de renseignement, vraiment mettre des gens de terrain ensemble qui connaissent très bien un milieu difficile à Birmingham, à Toulouse ou à Molenbeek.
Alors, pour être ouvert, néanmoins, a dit Emmanuel Macron jeudi, pour être ouvert, il faut des limites pour accueillir, il faut une maison, donc des frontières, c'est ce qu'il disait lors de sa conférence de presse, et en pointant ce qui lui apparaissait comme des dysfonctionnements européens.
Nous avons décidé d'avoir des frontières communes, ces fameux espaces Schengen, avec les règles des accords de Dublin. Cela ne marche plus. Et pour moi, c'est le deuxième grand combat européen avec le climat, c'est le combat en matière de migration. Nous devons profondément refonder notre politique de développement et notre politique migratoire. L'Europe à laquelle je crois, l'Europe souveraine, forte, c'est une Europe qui repense une ambition de coopération, de développement à l'égard de l'Afrique et de toutes celles et ceux qui en ont besoin pour éviter les migrations subies. Mais c'est aussi une Europe qui tient ses frontières, qui les protège. C'est une Europe qui a un droit d'asile refondé et commun et où la responsabilité va avec la solidarité. C'est sur ces bases qu'on doit refonder Schengen. Quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d'États. Je ne veux plus avoir dans l'espace Schengen des États qui vous disent « J'en suis quand c'est pour la liberté de circulation, mais moi je ne veux pas en être quand il s'agit de répartir la charge. Pas de solidarité chez moi. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne veux plus non plus des gens qui ne veulent pas tenir la frontière commune et sont dans le laxisme. Cette refondation est indispensable.
Yves Bertoncini, est-ce qu'elle vous a surpris cette volonté annoncée jeudi de réduire le périmètre de l'espace Schengen, ou c'est une idée qui accourt régulièrement, au moins dans les couloirs des instances européennes?
Bon, tout d'abord, là, on est en train de parler des migrations, hein, donc on n'est plus tout à fait sur le même sujet, qui est le sujet terroriste. Le fait que
lui
ça
a
soit,
fait le lien,
même si, il faut le dire, c'est factuel, il y a eu des infiltrations terroristes au moment de la grande crise des réfugiés, et nous avons bien vu que certains des auteurs des attentats du 13 novembre, notamment au Stade de France, s'étaient infiltrés via le flux de demandeurs d'asile. C'est pas des demandeurs d'asile, c'était des faux réfugiés qui voulaient non pas demander l'asile, mais se faire sauter chez nous. Donc ça existait. Oui, il y a eu quelques infiltrations. L'action à la source a été entreprise depuis lors. Et puis, il y a un flux qui a été tari. Et puis aussi, par exemple, dans les avancées qu'on a enregistrées, on peut maintenant contrôler plus facilement à l'extérieur, y compris dans les aéroports ou quand ils reviennent dans l'espace Schengen, des Européens. Parce qu'avant, ce n'était pas possible. On ne contrôlait que les non-Européens. Donc, il y a eu des avancées. Le passenger name record, vous savez, l'échange d'informations sur ceux qui prennent l'avion, quand même. Bon. Mais ayant dit cela, et il en faut d'autres, mais je reviens sur la partie migratoire, c'est ce qu'évoque Emmanuel Macron. Bon, lui, il lit deux choses. Le déficit de confiance qu'il y avait au niveau des frontières extérieures, parce que c'est vrai qu'il y avait des États qui étaient soit en incapacité de contrôler les frontières extérieures, qui étaient nos frontières d'une certaine manière, parce que quand quelqu'un passe la frontière en Italie, il peut venir en France et même en Allemagne. Ça a été traité en grande partie. Il y a eu d'abord des hotspots, ce qu'on appelle, et puis maintenant ce projet de corps européen de garde-frontières. Donc le déficit de confiance est à peu près soldé, même s'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quand on arrive là, en Italie ou en Grèce, on contrôle et on fait le tri entre ceux qui n'ont pas vocation à rentrer et ceux qui, s'ils ont vocation à voir leur demande d'asile examinée, doivent être répartis entre États membres. Parce que c'est vrai que les demandeurs d'asile, ils ne viennent pas en Italie ou en Grèce, ils viennent en Europe. Et ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est que ça coince sur cette partie, et c'est pour ça qu'il évoque le règlement de Dublin, cette partie partage des demandeurs d'asile. Et là, il vise, je pense, les pays d'Europe centrale et orientale. Par exemple, la Hongrie. La Hongrie n'est pas en déficit de contrôle à ses frontières ou à la frontière extérieure de l'espace Schengen, parce que M. Orban a même cru bon de construire un mur qui n'a rien réglé. Hein. Il a juste déplacé le flux un peu plus loin. Mais ils sont en déficit sur la solidarité. Donc Emmanuel Macron dit, il y a des droits, il y a des devoirs. Et pourquoi ne pas réduire l'espace Schengen si ces pays ne veulent pas accepter ces devoirs en termes de solidarité? On verra comment ça sera reçu dans le cadre des européennes, les campagnes. Et puis ensuite, je dirais que de toute façon, tout ce qui consiste à rétrécir l'Europe, c'est un rêve bien français. Et qu'en la matière, comme en d'autres, on est plus à l'aise, nous, Français, avec une Europe en plus petit qui serait une France en plus grand. Je ne suis pas sûr que notamment les Allemands voient les choses de cette manière.
Yves Bertoncini, c'était pas tant sur la question de la migration et de la solidarité que je voulais vous faire réagir, mais la question de ce périmètre de Schengen qui rejoint bien sûr le thème de ce soir, puisque au sein de ce périmètre de Schengen ont été aussi établies des règles de coopération policière et judiciaire. Il y a un système d'information Schengen. Est-ce qu'il fonctionne bien? Comment fonctionne-t-il? Pierre Berthelet, est-ce que la question du périmètre de Schengen peut avoir une influence sur l'effectivité, sur l'efficacité de ces mesures de surveillance?
Alors, la réponse est clairement non, puisque de toute façon, les dispositifs qui ont été adoptés l'ont été à 28, enfin, même un petit peu plus, parce qu'il faut comprendre que plusieurs États membres sont associés, même d'ailleurs le Royaume-Uni et l'Irlande également, qui ne font pas partie de Schengen. Ce qu'il faut bien voir, c'est que d'abord, le système d'information Schengen est l'une de ces fameuses mesures de sécurité qui est destinée à compenser donc ce déficit de sécurité créé par l'établissement d'un espace sans frontières intérieures. Et globalement, ce système d'information Schengen fonctionne bien. Alors, il y a eu quelques ratés, et notamment, ça a été évoqué tout à l'heure concernant donc la fuite de Salah Abdeslam. Mais je dirais que globalement, le système fonctionne assez bien. Peut-être un point qui, à mon avis, me semble important, c'est que la question du rétablissement des contrôles aux frontières est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a de véritables enjeux dans le domaine de la construction européenne. Alors, il y a certes l'établissement du corps européen de garde-frontières, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question du retour. C'est-à-dire, en gros, lorsque des migrants sont attrapés sur le territoire national ou aux frontières, qu'est-ce qu'on en fait? Et la difficulté pour l'instant pour l'Europe, c'est d'expulser ces migrants. C'est une véritable question. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout mis à l'agenda politique. Deuxièmement, et là, ça se concerne plus la sécurité en tant que telle, c'est l'interopérabilité des bases de données. Des bases de données européennes notamment, faire en sorte qu'il y ait une fluidité d'information et faire en sorte qu'il n'y ait pas de redondance de l'information. Enfin, je rajouterai un dernier point, c'est concernant cette fois-ci le contrôle du web. On voit bien que là, on est face à au GAFA et à d'autres sociétés.
Et de la cybercriminalité.
Exactement, ou même simplement, il faut comprendre, c'est que ces questions-là ont un impact très direct sur les thématiques qu'on aborde. Par exemple, sur les terroristes, on le voit bien concernant Daesh, qui fait évoluer sa politique de communication par rapport aux mesures qui sont prises, notamment les mesures européennes. Et puis d'autre part, même également, concernant là, on parle concernant les frontières, des passeurs, puisqu'en fait, le rétablissement, en tout cas le renforcement des frontières extérieures, fait que les migrants utilisent donc ont de plus en plus recours aux passeurs. Et la difficulté là-dedans, c'est de pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Et là, l'objectif pour l'Union européenne, c'est de pouvoir faire pression, et notamment faire pression sur les grandes compagnies américaines. L'objectif là-dedans, et par contre, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on arrive à faire, ou ce qu'on arrive à faire difficilement à 28, c'est évident que ce n'est pas la France toute seule qui pourra aller voir le GAFA, qui pourra dire « bon bah écoutez, maintenant on va faire comme j'ai décidé ».
Alors, et pour autant, il existe, alors ils sont très très nombreux, on peut pas tous les citer, c'est énorme, il y a un registre européen des passagers aériens, il y a un réseau de communication protégé entre pays européens, il y a un fichier central qui enregistre toutes les empreintes digitales des personnes qui franchissent les frontières extérieures de l'Union européenne, qui existent tous ces dispositifs depuis de nombreuses années. Pour autant, ça n'a pas empêché alors les attentats 2015 à Paris, de 2016 à Nice et à Bruxelles, 2017 au Royaume-Uni, Abdelhassem El-Difraoui, qui est Si tous les outils sont déjà là, est-ce que c'est leur utilisation qui pose problème? Est-ce qu'ils sont mal alimentés? Est-ce que tous les États ne les ont pas encore mis en place? Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne marche toujours pas pour l'instant?
Non, je vais d'abord un peu revenir sur l'Internet.
Non, je voudrais que vous me répondiez, s'il vous plaît, parce que, en fait, vous revenez beaucoup sur les questions précédentes et il faut qu'on avance. Et notamment, la question migratoire, on va la mettre de côté. On se concentre vraiment sur la question sécuritaire.
Je vous écoute. C'est purement sécuritaire. Donc, on parle, par exemple, de l'Internet comme moyen de recrutement, comme moyen de communication de Daesh et de la criminalité organisée. Là, récemment, j'étais dans une conférence et j'étais très surpris, agréablement surpris, que Europol avait une jeune spécialiste de la propagande de Daesh qui se semblait être très bien informée sur ce genre de choses. Mais ça suffit pas, c'est-à-dire il n'y a pas une vraie coopération européenne, Europol, par exemple, du fond de choses, avec très peu de conséquences au niveau national pour de nombreux pays.
Ça veut dire qu'Europol tourne à vide ?
Non, pas complètement à vide, mais ça ne circule pas assez, ça reste un peu à une échelle supérieure des différents services de renseignement de police, le policier de base n'a pas réellement des informations sur le phénomène pan-européen et tout ça, donc ça c'est un vrai problème où il faut réellement en travailler. Concernant le flux migratoire, par exemple Emmanuel Macron me fait rigoler un peu vert quand il dit « refondation de la politique migratoire, chaque pays prend sa quota ». La France, par rapport à l'Allemagne, a presque pas pris des réfugiés, donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir, même en France, un débat national, donc tout le monde a peur, quelle est la dose de réfugiés qu'on peut prendre, et sortir la polémique, Macron s'est adressé clairement à l'Italie, dans un conflit actuel que le gouvernement français a avec le gouvernement italien, mais... Donc, tous ces tentatives ou toutes ces paroles de réfondation, je vois très peu des initiatives très concrètes. Et rappelons encore une fois, on parle des réfugiés, on parle de la sécurité, on fait un amalgame. La plupart des terroristes, respectivement là des djihadistes, qui ont commis des attentats en Europe, étaient des Européens. Ce n'étaient pas des gens qui sont venus de l'extérieur, même s'il y avait une douzaine des djihadistes infiltrés, nés en Syrie, en Irak. Donc, si on parle de réfondation, je voudrais bien savoir quelle réfondation réellement. Politique migratoire ou développement, par exemple, là, Macron nous parle encore aussi, il faut développer une politique en commun vis-à-vis le Sahel, vis-à-vis le sud de la Méditerranée et tout ça. Mais la politique actuelle française est plutôt dominée par les intérêts très particuliers de la France, de pas encore perdre des zones d'influence en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sahel. Donc j'attends des propositions concrètes pour un programme de développement pour le sud de la Méditerranée. Là, on reste dans le flou absolu.
Yves Bertoncini, si on s'en tient à ce qui se passe à l'intérieur des frontières de Schengen, si on s'en tient à la politique sécuritaire européenne, vous avez tous les trois fait une sorte de constat d'échec de la coopération européenne en la matière pour l'instant. Est-ce que, et je demanderai aussi à Pierre Berthelet, qui est un expert Europol, est-ce qu'aujourd'hui Europol doit être un FBI européen comme on l'entend ici et là, où on imaginerait, comme dans les films américains, que d'abord la police nationale intervient sur un événement, un attentat, et qu'ensuite elle attend qu'une police européenne n'arrive pour tirer des conclusions et mener son enquête.
Moi, j'ai signalé quelques progrès.
Yves Bertoncini et Bert Bartolet ensuite.
Quelques progrès, je vous disais, et d'ailleurs, qui ont été facilités par les attentats, malheureusement, qui sont survenus en Europe en 2015 et par la suite. Vous avez cité le fichier des passagers aériens. On a aussi renforcé la législation sur le commerce des armes. On a fait des progrès, je dirais, mais en Europe comme en France. Parce que si on fait un constat d'échec, c'est le constat des États membres, c'est l'échec des États membres. C'est à eux qu'il appartient de partager leur souveraineté, ce qu'ils rechignent à faire.
Mais parce que ce sont des données sensibles aussi et que les services de renseignement, très certainement, veulent les garder par-devers eux.
Absolument, mais d'ailleurs, c'est si sensible que même entre les polices du même pays, entre les services du même pays, et c'était le constat qu'on pouvait faire, malheureusement, au moment des attentats de novembre 2015, même au moment de ceux de Charlie Hebdo, d'ailleurs, un peu avant, ça coopère mal. Donc bien sûr, il y a un enjeu culturel, déjà au sein d'un pays, mais ensuite, un enjeu, une révolution culturelle à faire entre les pays d'Europe. Il faut davantage, effectivement, coopérer, pas seulement sur le mode du donnant-donnant, mais de manière un peu plus industrielle. Alors vous parlez du FBI européen. Le mouvement européen le propose, ce FBI européen. Et ça serait ça, évidemment, la solution idéale. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une confiance suffisante entre les 28 pays de l'Union européenne, ou bientôt 27, ce qui est loin d'être le cas. Donc au moins, peut-être faire un FBI, puisque si Emmanuel Macron veut faire une Europe en plus petit, c'est peut-être dans le partage de renseignements qu'on aura du mal à le faire à 27 ou 28 et qu'il faut le faire à 2, 3, 4, 5. Mais on parle de très très loin. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne s'espionnent. Il y a encore eu des exemples, malheureusement, dans un passé pas si lointain. Un autre exemple d'avancée, on va créer un parquet européen contre la lutte aux fraudes au budget communautaire. Il faut créer un parquet européen antiterroriste, pour qu'il y ait un procureur européen qui puisse directement utiliser les services de police.
Mais tous les systèmes judiciaires européens en Europe ne fonctionnent pas pareil. En France, le parquet est inféodé. Est-ce que le terme est exact?
Je ne vous dis pas que c'est simple à faire, mais on a fait par exemple le mandat d'arrêt européen. C'est-à-dire qu'on n'est plus... D'ailleurs, Abdeslam a pu être remis aux autorités françaises. C'est donc plus l'extradition qui supposait des procédures politiques, y compris un vote du Parlement. Donc ça avance petit à petit sur les différents registres, police, justice, renseignement, mais c'est un combat culturel et raison de plus, j'allais dire, pour y consacrer toute son énergie, parce que le défi terroriste est toujours là et que c'est ensemble qu'on peut le relever, même si, et je termine, c'est dans notre pays, au sein de notre pays, qu'il faut d'abord lutter sans prendre l'Europe et l'espace Schengen comme un bouc émissaire commode.
Pierre Berthelet, il existe aujourd'hui un collège européen de police. À quoi sert-il? Est-ce qu'il est destiné à terme à servir une police fédérale européenne? Et est-ce que vous l'appelez de vos voeux, vous aussi?
Non, alors pour l'instant, on est encore très très loin de tout ça. Le collège européen de police, c'est plus une structure qui est destinée à mettre en réseau les écoles de police nationales. Et chacune vient avec son programme. Alors c'est vrai qu'il existe des échanges. Il y a un système Erasmus pour policiers qui concerne une partie des policiers. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, et peut-être que là je serai un petit peu modéré dans vos propos, il ne faut pas forcément tirer un constat d'échec de l'Europe de la sécurité, parce que tout simplement ce serait être trop dur.
Que ça fonctionne mal, on va dire.
Toutes les filières qui sont démantelées. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que aussi, d'un côté, faut comprendre que, par exemple, Europol fonctionne parce que Europol n'a pas d'agence sur le terrain. Il fonctionne uniquement par rapport à l'information qui lui est transmise. Or, malheureusement, l'information qui lui est donnée n'est pas forcément toujours de bonne qualité. Enfin, et pour terminer, il faut savoir c'est que d'abord, la sécurité relève des compétences nationales. C'est dans tous les textes qu'on peut lire. La sécurité appartient d'abord aux États membres et l'Europe est simplement là pour apporter un coup de pouce, pour apporter des éléments complémentaires, mais en tous les cas, ça reste les États qui demeurent responsables. Enfin, et concernant la création d'un FBI européen, juridiquement parlant, pour l'instant, c'est même pas possible parce que les traités l'interdisent. Clairement, pour l'instant, Europol n'a pas de pouvoir d'exécution. L'idée qu'on pourrait voir, ce serait éventuellement, ça a été évoqué tout à l'heure, avec ce fameux procureur européen, qui pour l'instant est compétent concernant la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, mais qui pourrait voir ses compétences élargies aux questions terroristes. La Commission européenne l'appelle de ses voeux. Bon, pour l'instant, les choses sont encore pas tout à fait prêtes, mais je pense que dans quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, j'espère moins, on verrait les choses évoluer, et peut-être que là, on verrait avec la création d'un procureur, peut-être une police européenne. Mais je crois qu'il faut encore beaucoup de patience.
La Commission européenne,
ou beaucoup d'attentats.
Qu'on ne souhaite pas, évidemment. La Commission européenne propose aussi de créer une agence de renseignement européenne. Avant de partager un renseignement, encore faut-il le recueillir. Apparemment, c'est quand même le problème numéro un. Abdelhassem El-Difraoui, vous vouliez aussi parler du rôle de la société civile, des sociétés civiles européennes, dans ce, alors peut-être pas recueil de l'information et du renseignement, mais en tout cas dans cette Europe plus sécurisé, on va dire.
Non, mais les grandes failles de renseignement étaient, par exemple, là, parce qu'on n'a jamais, en ce qui concerne le dualisme, parce qu'on n'était pas capable de collecter des renseignements dans des milieux en danger, dans certaines banlieues françaises ou ailleurs. Et là, la société civile et la confiance que la société civile a dans le service de renseignement est une chose très importante, qui manque par exemple crucialement en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, de toute façon, moi je suis convaincu qu'il faut construire, même au niveau sécuritaire, l'Europe pas d'en haut, mais d'en bas. Et un deuxième point qui me tient à cœur, donc par exemple si on parle de djihadisme, mais aussi de la criminalité organisée, donc on est face à des phénomènes globalisés qui savent extrêmement exploiter le faille entre les différents pays, qui savent naviguer entre différents pays. Donc on peut pas combattre ces menaces si on reste qu'avec des institutions qui travaillent au niveau national. Donc il faut donner plus d'autorité à l'Europe dans la matière sécuritaire.
C'est vrai, Abdelhassem El-Dhifraoui, qu'on parle moins du crime organisé. Or, une conférence qui s'est tenue il y a 10 jours à La Haye, à l'initiative justement d'Europol, a présenté le crime organisé comme la principale menace pour la sécurité de l'Europe, loin devant le terrorisme. Et on voit partout, aux frontières, s'installer des dispositifs de plus en plus perfectionnés, des frontières électroniques, notamment aux frontières extérieures. Également sont en test des détecteurs de mensonges qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Il y en a, je crois, en Hongrie, en Grèce, en Lettonie, qui sont en test sur 4 postes frontières, avec un débat aussi qui se pose quand même, pour conclure cette émission, Yves Bertoncini, sur les libertés publiques. C'est un débat qui existe aussi à l'échelle européenne. C'est jusqu'où on va et jusqu'où on est prêt à aller pour garantir cette sécurité. Et apparemment, vous êtes plutôt pour dire que ce n'est pas optimal et pas très efficace.
Non, mais bien sûr, c'est d'ailleurs, ça illustre ce qu'a été l'arbitrage fait au moment de la création de l'espace Schengen. C'est-à-dire, on va laisser la liberté de circulation à ceux qui l'ont conquise, mais qui souffrent dans leurs déplacements. Je rappelle, encore une fois, les frontaliers, les transporteurs routiers, etc. Bon. Et donc, arrêtons de les entraver dans leur mouvement, mais en compensation.
Moi, je parle même, pardon, de la nature même de la collecte du renseignement. Et encore, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui est pourtant la seule administration aujourd'hui autorisée à contrôler la façon dont sont contrôlés les Français et qui dit non, il y a un truc qui ne va pas, et notamment dans l'échange de données avec l'étranger, l'extérieur.
Bien sûr, mais donc en compensation, plus de liberté et donc plus de sécurité réorganisée, obtenue différemment, notamment sur la base de coopération entre États, et ça va au-delà des Européens, ça part à l'extérieur aussi. Et puis, puisqu'on est à l'ère d'Internet, la collecte de renseignements à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr que ça existe, ce dilemme entre liberté et sécurité, on l'a encore vu récemment, puisqu'il y a aussi eu une avancée sur le, non pas seulement le financement du terrorisme, mais sur le retrait d'Internet des contenus à caractère terroriste. Et pendant longtemps, il y a eu une bataille des tenants de la liberté qui disaient tout ça, c'est de la censure. Mais il faut quand même considérer qu'on est dans une situation, nous, Européens, qui est quand même beaucoup plus dangereuse qu'auparavant, beaucoup plus dangereuse. D'une certaine manière, la sécurité collective, au sens large, pas seulement coopération policière et judiciaire, mais tout ce qui relève de la défense, c'est quand même le nouvel horizon mobilisateur pour les Européens, et ça suppose de revoir en partie seulement, parce qu'on reste le continent de la liberté, dans certains cas, l'équilibre entre sécurité et liberté, si on veut éviter le maximum de ces attentats terroristes.
Et est-ce qu'il ne faut pas, Pierre Berthelet, commencer par faire en sorte que tous les pays de l'Union Européenne ou de l'espace Schengen aient une même définition du terrorisme dans la législation, que également la définition de ce qu'est un soupçon raisonnable, un soupçon dans certains États, il y a une absence totale d'exigence en matière de liens très faibles, voire parfois inexistants, entre des soi-disant actes préparatoires ou des infractions non réalisées et l'infraction pénale elle-même. Il faut pas peut-être aussi commencer par coordonner tout ça, et ça rejoint le débat sur les libertés publiques. Amnesty International le rappelle régulièrement.
Oui, tout à fait. En fait, il faut bien voir, c'est que la création d'une Europe de sécurité est forcément mise en tension avec la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen. Pour l'instant, il y a deux chantiers qui sont en train d'émerger. C'est cette fameuse Europe de la sécurité qu'on a évoquée. Il y a aussi cette fameuse Europe pénale aussi qui est en train d'émerger. Alors, effectivement, il y a tous les outils répressifs et notamment, ça a été évoqué, le procureur européen, mais également tout un socle de une procédure pénale européenne qui est en train tout doucement de se tisser. Alors, tout ça prend beaucoup de temps, mais également avec la mise en place de dispositifs, en tout cas de dispositifs de protection pour les citoyens européens concernant donc toutes ces libertés. Moi, pour ma part, je suis assez positif dans le sens où je pense que finalement, ces enjeux sont structurants pour l'Europe de la sécurité. Donc on voit bien que chaque attentat ou chaque discussion permet de progresser. Mais je crois qu'au final, on voit bien que la grande difficulté là-dedans, c'est que qu'on soit pour ou contre l'Europe, à un moment donné, on voit bien qu'on est face à une sorte de réalité qui Merci. Fait qu'on a besoin de sécurité, on a besoin d'Europe.
Merci Pierre Barthelet d'avoir été avec nous ce soir en duplex de France Bleu Isère, que je salue et que je remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit de l'Union européenne. Merci à vous Yves Bertoncini, ainsi qu'à vous Abdelassiem Eldifraoui. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le djihadisme, c'est un que sais-je, et c'est paru en 2016. Merci à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, Antoine Dulster, Virginie Le Duo, Fanny Richer, Cyril Marchand, Joberto. Émission réalisée par Perret Legras, avec à la prise de son Ludovic Auger. Il est bientôt 19h sur France Culture.